Bonjour cher Emmanuel et bonjour à tous. Bienvenue sur les chemins du vendredi où chaque semaine nous donnons la parole à ceux qui font vivre la philosophie, universitaires, écrivains, artistes, chercheurs. Ceux qui la font vivre, c'est-à-dire ceux qui savent aussi l'emmener là où on ne l'attendait pas. Aujourd'hui, c'est la philosophe Gwenaëlle Aubry, également romancière et spécialiste de Plotin, qui va nous emmener dans l'intimité de sa fabrique philosophique. On commence avec Greta Garbo qui voudrait un autre whisky s'il vous plaît et Sylvia Plath, la poétesse américaine célébrée par Ryan Reynolds.
I'm gonna have another drink. Give me a whisky. Ginger ale on the side.
She'd ash on the carpet and slip me a pill and she'd get me pretty loaded on.
Bonjour Gwenaëlle Aubry.
Bonjour.
Bienvenue sur les chemins de la philosophie. Merci. Sur votre CV, on lit que vous êtes philosophe, écrivaine, romancière, directrice de recherche au CNRS, mais on ne lit pas l'importance qu'ont pour vous ces deux personnes notamment, qui ont pu compter dans votre vie d'une manière ou d'une autre, Greta Garbo et Sylvia Plath.
Sylvia Plath surtout, oui, je lui ai consacré il y a quelques années un livre qui s'intitulait « Lazare, mon amour », qui était un livre de commande en fait, mais qui pour moi était très, très déterminant. Il s'agissait de passer à travers une autre pour essayer d'éclairer, d'éclaircir mon rapport à l'écriture. Et de fait, en passant dans cette autre-là, cette grande autre-là, beaucoup de choses se sont éclairées pour moi, notamment le lien entre l'écriture et la survie. Dans les deux sens du terme, c'est-à-dire que Sylvia Plath, on la dessine souvent en victime ou en bon. Je crois qu'elle était en fait une survivante dans les deux sens du terme, c'est-à-dire une qui sa vie entière s'est battue contre des puissances de mort qui la menaçaient de l'intérieur et de l'extérieur, mais aussi une grande vivante. Et ce double mouvement-là, je pense, est inscrit dans l'écriture, est inscrit en tout cas très certainement dans mon travail d'écrivain et dans les voix d'hommes ou de femmes, d'ailleurs, que celui-ci fait résonner.
Et Greta Garbo, c'est une voix qui vous était familière ?
Je ne connaissais pas, en fait. Greta Garbo n'a pas...
C'est la première fois...
J'ai encore rien écrit sur Greta Garbo, mais ça viendra peut-être,
c'est
peut-être...
Non, mais c'était une voix qui apparemment vous accompagnait peut-être plus jeune. L'image de cette femme, c'était le premier enregistrement sonore que l'on a d'elle, en fait. Quand
incroyable.
L'on devient parlant, elle demande
magnifique.
Un whisky que je ne peux pas vous servir aujourd'hui, Gwenaëlle Aubry. En revanche, puisqu'on a commencé avec Sylvia Plath, qui fait partie de votre œuvre de manière importante, restons un instant là-dessus, puisque vous dites dans ce livre, Lazare, mon amour, que vous cherchez en elle, à travers elle, le point d'ajustement de l'écriture à la vie. Vous écrivez « Je ne veux pas la lire à travers sa mort, et donc pas non plus à travers le récit de sa vie. Je cherche à comprendre ce que par l'écriture elle a sauvé de la vie, et ce qui de l'écriture l'a sauvé aussi. Je crois qu'elle a été violemment, excessivement vivante, que de la vie elle a tout embrassé, mort incluse, et je crois aussi que l'écriture naît de ça, de la sensation, effroi et émerveillement, d'un excès de la vie sur elle-même que la vie ne suffit pas à combler. » C'est le clé de votre rapport à l'écriture, cet excès de la vie sur elle-même.
Oui, je crois, oui. Enfin, c'est l'une des clés, en tout cas, très certainement. Ce sentiment, effectivement, qu'il y a quelque chose en trop. Voilà. Quelque chose en trop que seule l'écriture peut tenter, non pas d'épuiser, mais peut-être de saisir. C'est vers ça que ça tend. Et puis cette question qui pour moi aussi est centrale, effectivement, de l'effroi et l'émerveillement, c'est-à-dire de ces cette forme de sidération, d'extase négative ou positive, qui là aussi pour moi est un élément central dans ma pratique d'écrivain. Ce qui m'intéresse, mais d'ailleurs dans la vie aussi, c'est effectivement les instants où ça casse, par excès ou par défaut d'ailleurs. L'extase, d'une certaine façon, pas en un sens religieux du terme, voilà, ce qui vous cloue dans l'effroi ou l'émerveillement, et comment on sort de ça. Toute la question pour moi de l'écriture, et plus particulièrement de l'écriture en prose, c'est vraiment celle de savoir comment on transforme l'intensité statique de ces instants sidérants, de ces moments où ça casse, où ça chavire, comment on la transforme en intensité dynamique. Et c'est vrai que, pour revenir à Sylvia Plath et à Lazare Mon Amour, on sait que Sylvia Plath était poète, même si elle a écrit un roman, et sa vie entière, c'est très étrange d'ailleurs, elle a sa vie entière voulu écrire d'autres romans. Alors qu'en général, ce sont plutôt les romanciers qui ont un rapport de désir entravé ou pas à la philosophie. Mais je crois à la poésie. Cette question du rapport entre l'intensité statique et l'intensité dynamique, pour moi, finalement, vient dire la question du rapport entre poésie et prose. Je crois que c'est à la poésie qu'il revient de dire ces instants arrêtés. Et que la prose, ça vient du latin prorsus, qui veut dire en avant, le grand mouvement en avant de la prose, la vitesse de la prose, est précisément ce qui permet de sortir de cette espèce d'intensité sidérante, silencieuse et statique.
Quels sont ces moments d'intensité dont vous parlez ? Par exemple,
il se décline de façon diverse dans mes différents romans, parce qu'ils sont très liés aussi à ce qui du monde me traverse ou me saisit. Mon dernier roman, La Folie Elisa, met en scène, en corps et en voix, quatre femmes qui se trouvent être des artistes et qui sont toutes traversée, terrassée par la violence de la séquence qui s'est ultra contemporaine, qui s'est ouverte en janvier 2015 et dans laquelle nous vivons encore. Là, il y avait pour moi un enjeu.
Donc depuis les attentats de Charlie Hebdo jusqu'au Bataclan,
les attentats et puis la montée de l'extrême droite, qui n'est plus juste une montée, mais désormais un triomphe dans un certain nombre de pays européens et puis la mer transformée en cimetière. J'étais moi à cette période-là dans l'état dans lequel je l'ai saisi, dans lequel le roman l'est saisi, c'est-à-dire dans le sentiment que, précisément cette espèce de relance vitale dont je vous parlais tout à l'heure, cette espèce de libération de la vitesse par-delà la sidération, ça n'opérait plus. C'est-à-dire que j'avais perdu, d'une certaine façon, j'avais perdu mes instruments de survie. Voilà, j'avais perdu mon bouclier de percée. Toutes les croyances, toutes les fois, tous les mythes auxquels s'arrimait mon rapport à l'écriture, parce que je pense que quand on écrit, on a besoin de s'inventer des mythes. Tout cela, tout à coup, était inopérant. Voilà. Donc c'est vrai que ces quatre-là ne sont pas des écrivains. Il y a une rockstar anglaise, il y a une sculptrice grecque, il y a une danseuse d'origine israélienne mais qui vit à Berlin, qui est d'ailleurs un personnage récurrent. Elle est échappée d'un de mes précédents romans. Et puis il y a une actrice française. Ces quatre-là, je les saisis dans cette sidération-là, à un moment où elle n'arrive plus à jouer dans tous les sens du terme, où elles quittent la scène, où elles prennent la fuite. Voilà. Ça, c'est comme ça que dans ce roman-là, la sidération, c'est d'ailleurs l'écho diffracté d'une sidération d'une forme d'impuissance très collective.
C'est ça. C'est vraiment un rapport direct avec ce qu'on appelle l'actualité qui vous saisit. C'est-à-dire que c'est pas une sidération intime, un effroi, un choc très personnel qui est difficilement communicable. En l'occurrence, ce que vous décrivez et ce qui a donné lieu à votre dernier livre, c'est une manière de réagir et peut-être de se protéger face à ce qui nous arrive ici en Europe.
Oui, absolument. D'ailleurs, le livre se construit par chambre. Le ce livre a la forme, la structure, l'architecture d'une maison. Et l'une des séries s'intitule Camera Obscura et composé d'extraits de presse, de véritables extraits de presse, de la presse européenne de cette année-là. Là, il s'agissait vraiment pour moi d'inscrire à même ce livre la trace brute de cette espèce de bascule du monde vers un état catastrophique.
Et pourquoi à ce moment-là vous décidez d'écrire cette trace brute plutôt peut-être que de vous vêtir de votre seconde casquette qui est celle de philosophe et d'écrire des textes engagés pour dénoncer ce qu'il se passe, essayer de mobiliser les foules?
Ah mais je ne crois pas que ce soit du tout incompatible. Enfin, inscrire la trace brute, c'est précisément pour moi une façon de, c'est, j'espère que ça peut opérer comme ça, de réactiver en fait le choc et le caractère, radicalement anormal de ce qui a commencé à se jouer à ce moment-là, de l'inscrire aussi comme événement, c'est-à-dire comme non nécessaire, d'aller contre ce qui peut faire qu'on s'y habitue, parce qu'en fait on s'habitue, au suffrage croissant de l'extrême droite, on s'habitue à la récurrence de ce vocabulaire, tout à coup la résurgence du terme d'axe par exemple, on s'habitue aux milliers de morts en Méditerranée. Donc inscrire cet événement comme événement, c'est une façon de rappeler qu'il n'est pas nécessaire et qu'un autre état du monde est possible. Après, il y avait un enjeu qui pour moi est un enjeu effectivement artistique, mais pas seulement, de toute façon un enjeu artistique n'est jamais juste artistique, qui était de savoir comment on se saisit d'une matière extrêmement noire. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Comment on s'en saisit sans la redoubler? Le personnage de sculptrice dans le livre, Irini Santoni, c'est une sculptrice grecque qui elle est terrassée par les corps qui s'échouent sur la plage de l'île où elle va depuis son enfance. Irini se met à travailler le Vanta Black, qui est une matière nouvelle, un noir absolu, radical, une matière composée de nanotubes de carbone qui absorbe la quasi-totalité de la lumière incidente. Elle redouble le noir. Moi, ça ne m'intéresse pas de redoubler le noir, de faire juste une œuvre noire. Cela dit, la matière noire, il faut pas non plus la réduire. Donc ça, c'est un enjeu et c'était particulièrement urgent pour moi dans ce livre-là. Comment agencer ce noir et la clarté. Comment agencer? En fait, ce livre s'est écrit dans une tension vraiment maximale entre, là encore, des puissances mortifères et puis l'espèce de vitalité, de sursaut, de sens de la jouissance, de la liberté, que depuis leur fragilité ou leur porosité, elles opposent à ces puissances-là. Et ça, cette question de la tension, de la tension entre ces deux pôles, pour moi, est une question mais essentielle en littérature, mais ailleurs aussi. Les livres, les êtres aussi qui m'intéressent. À chaque fois, manifeste cette tension. C'est-à-dire que creuser le négatif pour le négatif, le redoubler sur le mode de la lamentation ou de ça ne m'intéresse pas. À l'inverse, la vitesse ou la virtuosité conquise sans en passer par l'affrontement du négatif, ça ne m'intéresse pas non plus. Ce qui m'intéresse et ce qui me bouleverse et me passionne, c'est ce que je peux sentir de jeu de tension entre ces deux pôles-là.
Cette tension, c'est exactement celle que décrit l'écrivain Pierre Michon dans son rapport à l'écriture. Écoutez-le, c'était en 2017 au micro d'Arnaud Laporte.
J'écris très rarement. C'est des périodes, disons que je suis un peu maniaco-dépressif, c'est des périodes maniaques qui sont en général plus courtes que les périodes dépressives. Alors j'ai intérêt à faire très vite quand je suis en période maniaque pour écrire. Et dans ces périodes-là, alors qu'en général je suis un dormeur, je me lève à 3-4 heures du matin et je travaille là jusqu'à 9-10 heures. Il y a ces périodes qui tout à coup me tombent dessus. Je me dis, je vais pouvoir un peu travailler.
Sur France Culture, les chemins de la philosophie, vous écoutez Les Chemins du Vendredi, où aujourd'hui la philosophe et romancière Gwenaëlle Aubry est avec nous pendant une heure pour évoquer son travail littéraire et philosophique. Quelle est votre méthode de travail, Gwenaëlle Aubry ?
D'abord, merci d'avoir fait entendre la voix de Pierre Michon, qui est quelqu'un que j'aime infiniment, qui a joué un rôle très très important pour moi.
À quel titre ?
À plusieurs titres, mais... D'abord parce que c'est à travers lui, en fait, j'étais très jeune, hein, je le connaissais pas encore, mais que j'ai commencé à lire de la littérature contemporaine. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à lire Michon, quand j'ai découvert l'œuvre de Michon, tout à coup il m'est apparu clairement, mais comme à beaucoup d'autres, hein, que la littérature était encore vivante. Voilà, il y avait encore un vivant qui écrivait dans ma langue et qui était vraiment un écrivain.
Est-ce que vous pensez qu'elle était morte ?
Parce que beaucoup de choses peuvent donner à penser qu'elle est morte, oui.
Malgré la rentrée littéraire avec ses centaines d'ouvrages.
Il y a beaucoup de livres, mais il y a peu de littérature et peu d'écrivains.
Donc Pierre Michon en fait partie.
Et Pierre Michon en est un, assurément, oui. Et un très grand.
Et donc lui décrit ces moments de ce qu'il appelle cette maniaco-dépression qui fait qu'il y a plein de moments où il ne fait rien et tout d'un coup il se met à écrire. Vous parliez de cette tension qui vous plaît, qui vous stimule dans la vie et chez les gens. Est-ce que votre rapport à l'écriture, peut-être d'ailleurs entre littérature et philosophie, se fait sous cette forme-là ?
Alors, entre littérature et philosophie, c'est aussi, oui, sous la forme d'une tension, très certainement dans un partage quotidien qui s'est installé depuis l'adolescence, sans que je l'aie jamais décidé, ni même vraiment théorisé. De plus en plus, cette double pratique m'apparaît en fait comme une sorte de bilinguisme. C'est-à-dire, je parle de langue, ou plutôt j'ai un double rapport à la langue. La langue que je pratique en philosophie, et ça n'est pas le cas pour tout le monde, mais est une langue neutre, impersonnelle, transparente en tout cas, un instrument qui est mis au service de thèses et de démonstrations. Quand la langue, véritablement, c'est-à-dire la langue que travaille l'écriture, est une langue qui, à l'inverse, est maximalement chargée de matière, de sonorité, d'affect, de corps aussi.
Et pourquoi ne pas utiliser cette langue pour écrire ce qu'on appelle de la philosophie finalement ? Pourquoi est-ce que cette langue ne pourrait-elle pas être au service d'une pensée philosophique ?
Je ne suis pas sûre. Alors c'est vrai que certains philosophes sont aussi de grands écrivains. Nietzsche, Plotin, dont on parlait tout à l'heure, Deleuze. Il y a une très très grande beauté de ces textes-là. Leur rapport à l'écriture est d'ailleurs intégré centralement intégré à leur philosophie. Pour moi, il se trouve que ça se dispose autrement, que c'est avant tout dans l'écriture littéraire que je passe, c'est-à-dire que je passe tout entière, sans reste d'une certaine façon. Et la langue philosophique, à partir de là, vient jouer un autre rôle. C'est-à-dire que l'écriture, ça, c'est aussi quelque chose. L'écriture littéraire, c'est aussi quelque chose qui met quand même tout en dessus dessous. Enfin, qui bouleverse les structures sinon de la syntaxe, du moins du langage ordinaire et quotidien, qui du même coup fait vaciller quand même aussi les structures du moi. Bon. C'est un grand désordre, hein, quand même. Moi, le rapport que j'ai à la langue philosophique, qui m'est aussi nécessaire, est très différent. C'est-à-dire qu'en fait, la langue, le travail philosophique et mon rapport au langage philosophique, à cette autre langue-là, vient d'une certaine façon restructurer, remettre en ordre, border tout ce que le travail littéraire, avec les grands mouvements aussi de l'inconscient dans lequel il s'ancre, a fait vaciller.
D'un côté le chaos et de l'autre l'ordre.
Oui, ça se pour dire les choses. Essayer de formuler un peu simplement cette chose-là qui est tout sauf simple, qui est extrêmement compliquée, et dont je pense d'ailleurs qu'il faut qu'elle me reste en tout cas en partie opaque. Ça se dispose un peu comme ça. C'est vrai. Et de plus en plus, c'est-à-dire que il se trouve que de plus en plus, je travaille avec des musiciens, je travaille avec des comédiens, avec une danseuse aussi récemment. Donc de plus en plus, j'ancre aussi mes textes dans une pratique en fait qui met fortement en jeu le corps, enfin que ça soit de la lecture à voix haute et en musique ou de la danse. Donc cet ancrage-là, cet ancrage souterrain, je le creuse, si vous voulez, de plus en plus. Bon, je crois que de toute façon, ce qu'on appelle le style, ce qu'on appelle la voix, c'est quelque chose comme ça. C'est une respiration singulière, c'est une pulsation organique. Bon, ces rythmes-là, pour moi, ce sont les rythmes qui passent dans la littérature.
Écoutons la langue, la voix et le style de Plotin. Philosophe qui vous est cher, dans une traduction, là c'est un autre problème de la langue, c'est celui de la traduction. Puis vous nous direz ensuite ce que ce texte et ce que Plotin vous inspire.
Nous soutiendrons que la vertu et l'intellect sont souverains, et que c'est à eux que l'on doit rapporter ce qui dépend de nous et la liberté. Car ces facultés n'ont pas de maître. L'intellect dépend de lui-même, et la vertu désire ne dépendre que d'elle-même, en dominant l'âme afin de la rendre bonne. Et dans cette mesure, la vertu est elle-même libre et rend l'âme libre. En outre, lorsque surgissent des passions et des actions imposées par la nécessité, la vertu, tout en exerçant sa domination, n'a pas voulu qu'elles adviennent. Et pourtant, même dans cette situation, elle préserve ce qui dépend d'elle, en le faisant remonter en elle-même, même ici-bas. Elle ne se laisse pas entraîner par les circonstances. Par exemple, lorsqu'il s'agit de sauver un individu qui est en danger. Mais si cela lui semble bon, elle sacrifiera cet individu et lui enjoindra de sacrifier ses biens, ses enfants et sa patrie même, en ayant en vue sa propre beauté, et non l'existence des réalités qui lui sont inférieures. Par conséquent, même dans les actions, la libre disposition de soi et ce qui dépend de nous ne doivent pas être rapportés à l'accomplissement d'une action, pas plus qu'à l'acte externe, mais à l'acte intérieur, c'est-à-dire à l'intellection et à la contemplation propre à la vertu elle-même.
Vous connaissez cette chanson, Gwenaëlle Aubry ?
Oui, elle n'est pas dans la folie de Lisa, celle-ci.
Non.
Ni chez Plotin, mais...
Non, elle est chez Sofia Coppola, parce que c'est la bande originale de Virgin Suicide, ouais. qui vous parle également, je crois savoir. Pour accompagner la lecture de ce texte de Plotin, vous disiez schématiquement que la littérature entretenait un rapport au langage qui mettait sans dessus dessous, cette forme de chaos, quand la philosophie, elle... appelait en vous, en tout cas, une langue beaucoup plus neutre, efficace. Quand on entend le texte de Plotin, on ne peut pas dire que c'est de la littérature. Il y a une idée, la langue est au service de l'idée, il y a quelque chose d'assez aride, si bien qu'on se demande comment les deux peuvent être, finalement, peuvent aller de pair. Qu'est-ce qui, chez vous, d'où vient votre intérêt pour Plotin, tout simplement ?
Plotin, c'est vraiment une source, hein, pour moi. Alors, depuis que j'ai travaillé, c'est effectivement sur lui d'abord que j'ai travaillé quand j'étais plus jeune. J'ai fait d'autres choses depuis, mais c'est une source à laquelle je reviens. C'était en fait aussi un grand philosophe, mais aussi un écrivain, vraiment Plotin. On n'entend pas forcément dans ce texte-là, mais dans d'autres, il y a une puissance métaphorique très étrange et très belle, en même temps qu'une très grande puissance conceptuelle. Il y a toujours les deux chez lui. Enfin, il est l'un de ceux, on en parlait tout à l'heure, comme Deleuze, comme Nietzsche, voilà, qui parle pleinement les deux langues.
Donc sa langue vous parle autant que
oui, je pense vraiment
le contenu de sa pensée.
Oui, absolument. Ma fascination, là encore ancienne, d'adolescente pour Plotin, était sans doute une fascination, disons, impure, hein, qui tenait aussi à l'extrême beauté de ses textes. Après, c'est vrai que très certainement, certains motifs centraux de la pensée de Plotin traversent mon travail d'écrivain. Pas au sens où celui-ci viendrait les illustrer, ni même les incarner, mais au sens où ces motifs, en fait, répondent à des questions qui sont pour moi des questions vital, en fait, antérieure au partage entre philosophie et littérature. On parlait tout à l'heure de la question de l'extase ou de l'oubli de soi. Je pense qu'on a, d'abord, je pense qu'il faut en passer par ça pour écrire. Et puis, c'est vrai que, enfin, je parlais de ça tout à l'heure, de cette espèce de mouvement de désappropriation, puis de reprise à travers l'écriture, donc à travers le corps propre. Je crois que dans plusieurs de mes romans, cette question de la une forme d'absence à soi est très présente. Elle était très certainement dans Personne. Elle est aussi dans La Folie Elisa. Les quatre dont il est question dans La Folie Elisa ont une forme de rapport déréglé, mais qui m'intéresse beaucoup là encore aux autres et à l'extérieur. Elles sont extrêmement poreuses. Elles ne sont pas barbelées. Leur citadelle intérieure est passablement ébranlée. Bon. Donc cette question de la multitude intérieure, elle est très présente chez Plotin. Pour parler du jeu, Plotin utilise le terme grec, le pronom grec hémeis, la première personne du pluriel. Il ne parle pas du jeu, il parle du nous. Voilà, nous sommes plusieurs, dit-il. Et bien sûr qu'on est plusieurs. Et pour écrire, il faut l'écouter. Hein, cette foule intérieure comporte tous, écrivains, artistes ou pas. Il faut l'entendre bruisser, l'entendre gronder.
Il y a chez Plotin cette idée l'idée d'ailleurs d'une identification entre ce que disait le texte, entre la beauté, la vertu, et tout est couronné parce qu'il appelle l'un bien, comme une unité qui est rassurante en réalité, qui serait presque l'autre nom de Dieu, qui est bien loin en effet de cette multiplicité peut-être chaotique qui nous compose.
Alors oui, l'un, Plotinien, c'est aussi et l'expérience de l'extase qui permet de l'approcher. C'est aussi quelque chose dont on revient. Ce que je veux dire, c'est que moi, ce qui m'intéresse chez Plotin, comme chez les mystiques d'ailleurs, c'est la descente. Beaucoup plus que l'ascension. C'est cette question qui revient comme un motif, une sorte de leitmotiv même chez Plotin. Comment revenir ici après avoir été là-bas? Cette question, on peut la traduire assez facilement dans une phrase de Beckett qui dit, je crois que c'est dans l'innommable, « Revenir est long, je ne sais pas d'où. Bon. » je crois que l'écriture est ce mouvement de retour. De la même façon, vous voyez la question de l'extase. Roberto Bolaño dit ça, c'est très drôle d'ailleurs dans un entretien. Il dit voilà, tout écrivain connu des extases, les grands écrivains des grandes extases, les petits écrivains, les moins bons des des petites extases. Bon. Donc oui, c'est plutôt comme ça que ça joue, que ça se dispose pour moi, Plotin. Après, c'est aussi une pensée. Vous parliez de la beauté, de la vertu, mais aussi chez Plotin une pensée de la grâce, qui est en fait une pensée de la grâce au sens esthétique du terme, qui est en fait le serpentement, le mouvement de la vie. Un homme l'est, s'il est vivant, dit Plotin, on sera toujours plus beau que la plus belle des statues. Donc il y a aussi cette pensée de
ça, c'est incroyable, de la vie, la pensée forme de la laideur pour chez Plotin.
Oui, oui, texte qu'on trouve quelque chose de très troublant et qui est lié en fait à cette structure, cette hiérarchie du réel en vertu de laquelle l'imbien, en effet, est antérieur à l'intellect, qui est, comme on l'entendait dans le texte tout à l'heure, le lieu, oui, de la beauté intelligible. Mais il y a au-delà, la grâce, et il y a ce flux de puissance qui procède de l'un, parce que la philosophie plotinienne est une philosophie de la puissance aussi.
Reste à savoir si ce que vous dites de Plotin, ce que dit Plotin, est un autre nom pour une forme de transcendance qu'on pourrait peut-être appeler Dieu. Vous parliez de Beckett et de Bolaño, voici un autre écrivain qui commence par un B, c'est Georges Bataille.
Je suis philosophe, au moins jusqu'à un certain point, et toute ma philosophie consiste à dire que le principal but que l'on puisse avoir et de détruire en soi l'habitude d'avoir un but. Dans la mesure où l'on peut avoir un but, il me semble que l'on doit regarder la vie d'une façon tout à fait défavorable. D'abord parce que ce but est limité par la mort, mais tant que l'on vit dans l'instant présent, il n'y a lieu que de voir les choses de la façon la plus favorable du monde, puisque l'on n'a plus la moindre préoccupation concernant l'avenir.
Et cette manière de vivre, nous dit Bataille un peu plus loin dans l'interview, hein, détruire toute forme de but, c'est une manière de remplacer Dieu, dit-il tout simplement.
Oui, c'est la souveraineté, c'est ce qu'il appelle la souveraineté.
La souveraineté.
Mais là encore, merci de faire entendre sa voix, parce que j'avais, écrivant La Folie Elisa, à l'esprit une phrase de lui que je vais citer de mémoire et donc sans doute mal. C'est dans L'amour d'un être mortel, où il écrit que dans le vide mental presque illimité où nous sommes, les chambres verrouillées, les chambres amoureuses, donc les chambres clandestines, sont l'unique îlot où les figures de la vie se recomposent. Et bon, ça c'était, je l'ai dit, ce livre se construit par chambres dans lesquelles ces quatre femmes vont tenter de reconstruire les figures de leur vie. Mais l'une des questions aussi de ce livre, c'est où trouver l'asile, enfin, dans quelle île ultime, et aussi à quel moment quitter la chambre pour aller vers le grand dehors.
Et c'est un monde sans Dieu.
Ce sont des îles sous un ciel vide. En même temps, enfin, là encore, la question du salut, pas forcément dans un sens religieux, mais la question du salut est étroitement liée pour moi à celle de la littérature. Ces quatre voix-là se sauvent dans les deux sens du terme. Elles prennent la fuite et dans cette fuite, elles cherchent le salut. On parlait de ça tout à l'heure, ne pas redoubler la matière noire, ne pas non plus la réduire. Il s'agit aussi, et c'est ce que j'ai tenté de faire là, le livre se construit en dedans, dehors. Bon, d'ouvrir à un moment cette maison et ces chambres à un état du monde un peu plus lumineux, un peu moins dévasté. Et ça, rappeler en fait qu'un autre état du monde est possible. Parce que la littérature doit pouvoir rappeler qu'un autre état du monde est possible.
Ce que ne fait pas la philosophie, en réalité.
Ce que ne fait... La philosophie peut le faire. La philosophie peut le faire. Il y a des philosophies du possible. Là, en l'occurrence... Ce que j'avais, hein, j'avais en tête l'Apocalypse, j'avais en tête des textes messianiques, c'est-à-dire qu'en fait ce sont ces phrases et ces mots-là qui m'accompagnaient, ces livres-là qui m'accompagnaient, j'avais en tête Steglov, effectivement c'était plutôt des textes religieux et poétiques qui m'accompagnaient.
On trouve dans votre œuvre l'exploration peut-être de cette absence de Dieu, d'unité qu'il y a chez Plotin, qui fait aussi le sel de notre existence ici-bas, puisque vous disiez que chez Plotin, ce qui vous intéresse, c'est la redescente, hein, et donc vraiment la matérialité avec laquelle nous composons quotidiennement, y compris la laideur. Mais on trouve au-delà de la multiplicité des personnes qui nous composent, comme vous disiez, une exploration de cette limite qui nous sépare peut-être de la folie. Il y a aussi une mise en scène, je ne dirais pas une réflexion, parce que pour le coup, c'est de manière littéraire que vous abordez ce thème-là, de ce qui peut nous faire basculer, ce qui peut nous faire vaciller. Vous en parlez notamment dans votre roman Personne, qui parle notamment de la maladie de votre père. Mais on retrouve souvent cette figure, ce motif que vous travaillez de livre en livre, parce que parfois vous reprenez des motifs explorés dans les livres précédents, même des personnages que l'on retrouve d'un livre à l'autre. Est-ce que cette folie-là, est-ce qu'elle est liée forcément à la littérature, ou est-ce que c'est une forme de... C'est la peur de la raison elle-même de se perdre, de perdre l'ordre qu'elle a tant cherché.
Oui, cette peur de la raison, la philosophie peut en témoigner aussi, hein, bien évidemment. Nietzsche, bon, là encore, c'est pour moi, c'est pour moi un objet littéraire. La formule est étrange, mais disons que le travail sur cette question-là, pour moi, passe par la littérature, passe par des voix singulières, passe par des corps, passe par des corps singulier là encore. Là, il s'agissait d'interroger. C'est vrai que c'est souvent quelque chose qui me lance aussi dans la littérature, c'est l'équivocité. Bon. Le terme de personne est équivoque. Il dit à la fois l'identité et l'absence. Le terme partage, qui donnait son titre à un autre de mes romans, est équivoque. Il dit à la fois ce qui relie et ce qui sépare. La folie, Elisa, est deux fois équivoque. C'est-à-dire que là, le terme folie, je l'entends en son sens architectural, comme dans La folie Elmayer de Conrad, au sens, donc en ce sens qui vient du latin folia, feuille. Tout livre est une maison des feuilles. Bon, et Elisa, c'est l'anagramme d'asile. Dans ce livre-là, la question de la folie et celle de l'asile, dans les deux sens du terme, se nouent très étroitement. Il se trouve que par ailleurs, la folie Elisa, c'était le nom du véritable, d'une maison véritable que j'ai perdue, que j'aimais, dans laquelle j'ai vécu, écrit. Et que la perte de cette maison a coïncidé avec ce que je disais tout à l'heure. En même temps, ça ne pouvait pas devenir l'objet direct d'un livre. Enfin, il y aurait quelque chose d'indécent à écrire sur la perte de cette maison, alors qu'il y a 68 millions de réfugiés. D'indécent, oui.
C'est comme s'il y avait un devoir de l'écrivain de parler de ce qui ne le concerne pas avant de parler de ce qui lui est intime.
Ah, mais on peut être, enfin, plus concerné peut-être par ce qui se passe dans le monde que par ce qui se passe. Ça nous traverse au moins autant, non? Je pense avoir été moins saccagé par la perte de cette maison que par tout ce qu'on énumérait tout à l'heure.
Oui, mais heureusement que certains auteurs ont su peut-être aussi, non pas tourner le dos au monde, mais centrer, prendre le temps de décrire des choses qui leur arrivaient, qui sont extrêmement intimes et difficiles à nommer, pour que leur texte existe aujourd'hui, qu'on puisse s'y identifier.
La question, c'est comment on agence ça. Voilà, comment on agence l'intime au collectif. Et je pense que cette question-là, elle se pose de façon particulièrement urgente en ce moment. C'est vrai que Irini perd une maison dans le livre, mais ça ne pouvait pas être l'objet du livre. En revanche, c'en est devenu la structure. C'est-à-dire que ce livre se construit à l'image d'une maison, les didascalies qui ouvrent chaque chambre décrivent ce qu'était véritablement cette maison, et surtout ce livre porte le nom de cette maison. Il suffisait finalement de déplier le nom de cette maison pour ouvrir le livre. Mais sans doute aussi parce que j'avais besoin d'une contrainte formelle forte pour affronter la matière réfractaire, la matière récalcitrante dont on parlait tout à l'heure. Et cette contrainte formelle est invisible à tout autre que moi, mais a été pour moi motrice. Les lettres de ce nom, Elisa, sont devenues chacune l'initiale de l'une des voix qui résonne dans le livre.
C'est la forme qui vous a inspiré, au fond.
La forme, en fait, l'inspiration, la forme, comment vous dire, d'abord, la forme permet de jouer. Et ça, c'est très important, cette question du jeu. Aussi bien en son sens enfantin, ludique, qu'au sens menuisier ou bricoleur du terme. Comment on agence, je le disais, l'intime et collectif, comment on laisse aussi l'espace d'un rapport actif de recomposition du texte pour le lecteur, et puis comment continuer à jouer. Enfin, c'est cette question-là que se posent ces quatre femmes dans le texte. Toutes, chacune à sa façon, cesse de jouer. La rockstar quitte la scène après le Bataclan, la danseuse tombe, la sculptrice ne travaille plus que le ventablac et les barbelés, et la comédienne, très littéralement, un soir de dernière sur la grande scène de l'Odéon, se met à parler au public. Comment on continue à jouer?
Vous vous identifiez à ces quatre personnes?
Elles me sont très proches, oui.
D'autant ça fait que beaucoup de monde, c'est vrai.
Ça fait beaucoup de monde, mais en
fait, il y en a bien d'autres, peut-être.
Il y en a bien d'autres.
Je vous pose la question parce que lorsque Pierre Dumayet, en 1964, cuisine, je crois que c'est le terme le plus approprié, Marguerite Duras sur L'Olvestein, voici ce qu'elle répond.
Quand avez-vous imaginé ou rencontré ou vu pour la première fois ce personnage de Lol Weinstein?
Je l'ai vu dans un bal de Noël, dans un asile psychiatrique des environs de Paris.
Un bal qui a été organisé à l'asile même?
Oui, à l'asile même. Et après, j'ai demandé à la revoir. Et je l'ai revue une fois, très longtemps.
Comment était-elle au cours de ce bal?
Comme un automate. Elle dansait. Elle m'avait frappée parce qu'elle était belle d'une part et intacte physiquement. D'habitude, les malades sont très marqués. Elle ne l'était pas du tout.
Quel âge avait-elle?
30 ans. Et elle paraissait très jeune.
Vous l'avez appelée Lol, pourquoi?
À cause de Lol et Bellon. Je voudrais beaucoup que ce soit Lol et Bellon qui joue le rôle de Lol Weinstein.
Et c'est ce bal qui a été le point de départ de l'histoire.
C'est ce bal et la rencontre de cette femme. J'ai essayé de la faire parler très longtemps, enfin toute une journée. Elle croyait que j'étais un docteur et elle l'a parlé pour paraître être comme tout le monde. Et plus elle le faisait, si vous voulez, plus elle était singulière à mes yeux.
Et ce sujet qui commençait par la folie, vous, à ce moment-là, étant privé d'alcool, ça n'a pas déterminé d'autres peurs que celles que vous me disiez tout à l'heure, c'est-à-dire celle d'écrire mal ou autrement?
Un petit peu. Enfin, la folie devenait plus familière sans alcool.
Vous n'avez pas craint de vous identifier à elle un peu trop?
Non.
Et on retrouve l'alcool, Gwenaëlle Aubry, qui a ouvert cette émission avec Greta Garbo. Ici, c'est Marguerite Duras. Alors, pour elle, l'identification n'a pas lieu. Elle le dit. En revanche, la manière qu'elle a de décrire sa rencontre avec le personnage qui lui a inspiré Lol Weinstein a quelque chose de, à la fois d'implacable et de bouleversant.
Oui, c'est magnifique. Merci. Je crois n'avoir jamais entendu, en fait, cet extrait-là. Il y a un autre texte, en fait, c'est dans La vie matérielle, elle parle encore de Lol Weinstein, c'est-à-dire qu'elle dit...
Alors dites-nous qui est Lol Weinstein, pour ceux qui la connaissent pas.
C'est cette figure qui donne son nom à l'un des, peut-être, au plus beau livre de Duras, Le ravissement de Lol Weinstein, qui a fasciné Lacan, d'ailleurs, par ailleurs. Qui est une grande figure de l'oubli de soi, pour le coup, prise dans une sorte de relation triangulaire avec un couple. C'est un livre que moi j'ai lu très jeune et je sais que très adolescente, très bizarrement, j'avais dans ma chambre avec au côté de tout ce qu'il peut y avoir dans une chambre d'adolescente, des posters de David Bowie, etc. J'avais aussi une citation de Lol Weinstein, l'idée de ce qu'elle fait ne la traverse pas. Donc elle m'accompagne depuis longtemps, mais...
L'idée de ce qu'elle fait ne la traverse pas.
Oui, l'idée de ce qu'elle... Ouais, ouais. Elle m'accompagne depuis longtemps et Duras parle d'elle plus tard dans La vie matérielle. Et bien comme d'une qui finalement la harcèle. Elle dit que toutes les femmes dans ses livres finalement dérivent de Lol Weinstein et qu'elle n'en peut plus de la voir, qu'elle n'en pouvait plus de la voir à la porte de ses livres et à la porte de ses maisons.
On les retrouve, ces
maisons.
On
retrouve les maisons. Et j'avais en tête cette phrase-là. Et c'est dans ce texte-là que Duras finit en appelant Lol Weinstein, avec une grande tendresse, d'ailleurs, ma petite folle. Et au début, moi, je voulais faire ça, je voulais écrire un livre sur, avant tout ce que je vous ai dit, la bascule du monde, avant tout ça. Je voulais écrire sur les petites folles, j'avais écrit sur Sylvia Plath, j'avais écrit un roman qui s'appelait Perséphone 2014, et j'avais envie de continuer d'écrire... sans bien savoir d'ailleurs si ce texte prendrait la forme d'un roman, d'un essai, d'explorer d'autres figures, celle de Louise Bourgeois par exemple, d'explorer d'autres formes de cette espèce de dérèglement, là encore, entre du rapport intérieur extérieur, de cette espèce d'extrême porosité au monde, qui fait qu'il peut vous mettre à terre, mais c'est aussi cette inversion, ce renversement dont parle Deleuze, de l'impuissance à la puissance. Voilà l'énergie farouche qu'il faut pour transformer cette sidération, en énergie créatrice. Voilà, je voulais écrire sur ces petites folles qui se trouvent être aussi des grandes artistes et des grandes et des grandes amoureuses. Et puis finalement, elles se sont, voilà, pour des raisons que j'ai un peu dites, ce livre a pris la forme d'une fiction. Et elles se sont diffractées en quatre voix, en quatre artistes.
Qui ne sont pas folles d'ailleurs.
Qui ne sont pas si folles que ça, non.
Vous avez beaucoup parlé de littérature au cours de cette émission. L'idée était de voir comment la philosophe que vous êtes aussi parle de son rapport à la littérature et à la philosophie conjointement. Pour avoir une idée de ce lien-là qui vous unit à la philosophie aussi, on a parlé de Plotin. Je propose une sorte de petit questionnaire. Vous savez, Proust proposait un questionnaire pour qu'on apprenne à connaître la personne. L'équipe des chemins de la philosophie a concocté un questionnaire pour dresser votre portrait philosophique, si vous acceptez de jouer le jeu.
On va jouer.
Voilà. Oui. Quel livre de la philosophie n'avez-vous jamais ouvert?
Parmi les très très grands, parmi les vrais grands, il y en a que je n'ai jamais rouvert. Voyez, il y en a qui sont morts dans ma bibliothèque. Ça, je le sais. Voilà. Je suis désolée d'être à ce point hésitante, mais.
Qui est mort.
Je sais que Kant, par exemple, je ne l'ai pas rouvert depuis, très brièvement, depuis l'agrégation. Je le cite lui d'abord parce que j'ai quand même beaucoup lu. Il était très important pour moi. Et bizarrement, voilà, il y a des livres qui parfois meurent dans une bibliothèque.
Dans un monde où on brûle tous les livres, Fahrenheit 451, quel livre de philosophie apprenez-vous par cœur pour ne jamais l'oublier?
Bon, j'apprendrai forcément par cœur un traité de Plotin, ça c'est certain.
Vous les connaissez déjà par cœur?
Non, pas exactement, pas tout à fait.
Vous pouvez dîner avec trois philosophes.
Ah.
Lesquels choisissez-vous?
Eh bien, Hegel, Plotin et peut-être Nietzsche, oui.
Pour rigoler un petit peu.
Histoire de rigoler.
Ironie socratique, austérité kantienne, angoisse de Schopenhauer ou paranoïa de Rousseau, quel défaut philosophique pouvez-vous cultiver?
L'ironie est une grande qualité qu'il faut à tout prix cultiver. Oui.
Donc vous choisissez l'ironie?
Oui.
Jardinage, sexualité, marche à pied, quelle activité s'apparente le plus à la philosophie?
La sexualité, non. C'est la parenté est avec la littérature. La marche à pied, oui, comme Nietzsche là encore le disait, le savait. La danse aussi.
Imaginez que le philosophe est une espèce en voie de disparition. Quelles mesures employez-vous pour sa conservation?
Le philosophe est en voie de disparition en tout individu passé l'âge de 4 ou 5 ans, ce grand âge métaphysique splendide. Donc il faut surtout conserver en chacun la grande clairvoyance et la grande inquiétude métaphysique des très très jeunes années.
Selon vous, quel philosophe devrait être le Machiavel d'Emmanuel Macron?
Il n'a pas besoin de Machiavel, il se débrouille très bien tout seul.
Bon, après toutes ces années d'études et de pratiques philosophiques, quelles leçons de sagesse pourriez-vous nous délivrer?
Je n'ai aucune leçon de sagesse à délivrer.
C'est pas le but de la philosophie?
Je ne crois pas. Sinon, peut-être ce oui à tenir cette approbation de la vie jusque dans ce qui la menace. Mais c'est loin d'être une sagesse quiète. Il s'agit là d'un mouvement inquiet.
Et dernière question, quel livre de philosophie ou quel auteur de philosophie avez-vous envie de transmettre à vos enfants ou d'enseigner à des jeunes enfants?
Je parle très spontanément aux jeunes enfants, enfin miens en l'occurrence, parce que c'est pour eux très éloquent, de Platon, les mythes platoniciens, on peut les lire à des très jeunes enfants. Commencez par là, oui, commencez par les mythes.
Eh bien, on terminera avec les mythes alors, Gwenaëlle Aubry. Merci infiniment
d'être à vous.
Venu vous livrer à ce micro. Je renvoie à votre dernier roman qui vient de paraître, La Folie Elisa, aux éditions Mercure de France.
I'm in heaven. I've got scars that can't be seen. I've got drama, can't be stolen. Everybody knows me now.
Lazare, mon amour, c'est le titre de votre livre, Gwenaëlle Aubry, que vous avez consacré à la poète Sylvia Plath. Lazarus, c'est le titre d'une des dernières chansons de David Bowie que vous avez également évoqué pendant l'émission La boucle est bouclée.
Look up here, man, I'm in danger. I've got nothing left to lose. I'm so high it makes my brain whirl. Drop my cell phone down below. Ain't that just like me?
Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie. Il est l'heure de retrouver, comme tous les jours, le journal de la philo de Géraldine Mosna-Savoie.
On n'est pas là pour philosopher, Carpentier.
Quand même. Incroyable.
Bonjour Géraldine.
Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous.
Vous nous parlez aujourd'hui de forme de vie.
Et oui, on pourrait inaugurer toute une nouvelle rubrique sur les concepts et notions à la mode, tels la disruption, l'empowerment, traduit par empuissancement en français, ou le concept chinois du Tianxia, par exemple. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la notion effectivement de forme de vie, en plein essor actuellement, et auquel est consacré un ouvrage collectif, sous la direction d'Estelle Ferrarez et Sandra Laugier, paru aux éditions du CNRS. Alors, que faut-il entendre par forme de vie ?
La nuit se termine, la ville s'anime, ça sent la tartine et le café au lait au lit. C'est la vie, les gens se bousculent, le sang recircule, toutes les pendules annoncent 8h30. C'est la vie.
Je vous vois bouger la tête, Adèle, vous connaissez déjà cette chanson ?
Mais oui, vous savez, moi j'aime la variété française, donc j'ai pas honte de l'assumer.
Et vous aimez Michel Fugain ?
Entre autres. En tout cas, je connais cette chanson.
Bon, alors en tout cas, retrouvée pour ma part grâce à la discothèque de Radio France qui regorge de trésors, on peut donc entendre dans ce grand morceau de la variété française, Michel Fugain donner sa définition de la vie. Ça sent la tartine et le café au lait au lit, c'est la vie. Alors d'autres pourraient donner d'autres définitions pour eux de ce que c'est que la vie. Et c'est bien le problème avec cette notion de forme de vie. Que faut-il déjà entendre par vie et que faut-il entendre par forme ? Est-il question de la vie vécue, biographique, ou alors de la vie biologique ? Et les formes désignent-elles ce qui est purement formel ou ce qui informe le tout ? Vous l'aurez compris, la notion de forme de vie semble avant tout nécessiter tout un travail de clarification. Car les formes de vie, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que ça désigne nos manières de vivre ? Est-ce que c'est la manière dont la vie se forme ou la forme que prennent nos vies ? Et ces manières sont-elles choisies ou subies, individuelles ou collectives ? Et pourquoi ce concept semble-t-il mettre l'accent sur une dimension concrète ou biologique comme la vie, tout en faisant écho à des pratiques éthiques ?
Nous pouvons maintenant comprendre pourquoi c'était une maxime dans l'Inde comme dans la Grèce ancienne qu'il ne faut pas regarder son image dans l'eau et pourquoi les Grecs considéraient comme un présage de mort pour un homme de rêver qu'il se voyait ainsi réfléchi. Ils craignaient que les esprits de l'eau n'attirassent sous l'eau l'image ou âme de la personne. Ainsi, privée de son âme, la personne serait morte. C'est là probablement l'origine de l'histoire du beau Narcisse qui dépérit et mourut pour avoir vu son image réfléchie dans l'eau.
C'est à Wittgenstein que l'on doit le développement de ce concept de forme de vie. Dans son commentaire du Rameau d'or de l'écossais James George Frazer, étude anthropologique en plusieurs volumes sur la religion, dont on vient d'entendre un extrait, il note l'impossibilité pour les sciences sociales de rendre compte de nos formes de vie. Et c'est encore un autre problème de cette notion, ce qu'elle dit d'une part, et puis comment la saisir. Encore une fois, l'expression de forme de vie en français est à la fois trop énigmatique, vaste, pleine de présupposés, et puis trop lisse. Beaucoup plus courante en allemand, c'est le terme Lebensform. Elle ne renvoie en effet à rien d'autre, selon Estelle Ferrares, qu'à un mode d'existence ou à une culture. Mais c'est en fait tout l'enjeu d'une telle notion. Difficile à saisir et à définir, c'est pourtant ce qui lui donne un attrait, son sens et la possibilité d'être manipulée et non pas figée. À la manière d'un miroir, cette notion exprime, reflète, donne à voir les traits divers de nos pratiques, de nos mœurs, jusqu'à nos institutions, modes, lois ou goûts. Mais à la différence d'un miroir, elle ne présente pas que des images qui s'observent, mais des traits qui peuvent se transformer.
Pourquoi cette comédie tous les jours ?
La routine. On ne sait jamais. Cette nuit, j'ai vu dans ma poitrine, il y avait un gros bobo.
Tu as vu ton cœur ?
Non, c'était vivant. Clove.
Oui.
Qu'est-ce qui se passe ?
Quelque chose suit son cours.
Clove.
Qu'est-ce que c'est ?
On n'est pas en train de signifier quelque chose ?
Signifier ? Nous ? Signifier ? Elle est bien bonne.
Je me demande. Une intelligence revenue sur Terre ne serait-elle pas tentée de se faire des idées à force de nous observer ?
À quoi ressemblent nos formes de vie et comment les modifier ? De fait, si les sciences sociales peuvent échouer à en rendre compte, selon Wittgenstein, les philosophes, tels Wittgenstein justement, Cavell, Adorno, Foucault ou Agamben, sont parvenus à le faire, à la fois en les définissant et en les manipulant. Pour les premiers, par exemple, Cavell et Wittgenstein, les formes de vie sont des formes du langage ordinaire. Pour Foucault, on peut les rapprocher de la notion de biopolitique, ou encore, pour Adorno, notre forme de vie, c'est notre forme de vie capitaliste. Mais très intuitivement, une telle notion de forme de vie semble aussi exprimer quelque chose de très vivant, à vif, dans nos manières quotidiennes, intimes, mais aussi sociales et politiques d'exister. Très simplement, selon moi, l'accent est enfin mis sur ce qui est vécu, agi et pratiqué, et pas seulement pensé et chosifié.
Et merci pour cet extrait de Beckett, fin de partie. C'est ça,
oui, c'est vrai que je n'ai pas cité, c'est tellement beau.
Une pièce magnifique. Merci Géraldine, rappelez-nous le titre du livre.
Ah ben, tout simplement, c'est Formes de vie, c'est paru aux éditions du CNRS sous la direction d'Estelle Ferrares et Sandra Laugier.
Et forme de vie, la forme et la vie, c'est deux choses que vous connaissez bien en ce moment.
Que je connais bien, puisque je ne vous retrouverai pas lundi, mais en janvier. Je laisse la place à Anastasia Colosimo.
Qui vient prendre le relais. Et bien voilà, quand vous reviendrez, vous aurez donné forme à une nouvelle vie.
À une nouvelle vie, et je vous écouterai seule, puis à deux dans quelques semaines.
On pensera bien à vous, et surtout, et moi aussi. Revenez vite Géraldine. D'ici là, votre chronique, et toutes vos chroniques d'ailleurs depuis des années, sont à réécouter en ligne sur le site du journal de la philo. Un grand merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie qui m'aide chaque jour à préparer cette émission. Géraldine Mosna-Savoie, Isis Jourda, Eva Ferenzi, Marie Simon, Sharon Ourier, Anaïs Isbert. C'était Philippe Baudouin à la réalisation cette semaine. Édouard Rubinstein à la prise de son aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous lundi prochain pour une nouvelle semaine des Chemins de la Philosophie consacrée à l'Iliade d'Homère. Nous partirons à la rencontre de ce poème des origines, des larmes d'Achille à la colère des dieux. La semaine prochaine sera épique sur France Culture et on commencera en fanfare avec Pierre Judet de Lacombe. D'ici là, pour écouter cette émission avec Gwenaëlle Aubry, celle de cette semaine sur le philosophe Stanley Cavell, sachez que c'est très simple, vous vous rendez sur le site de France Culture à la page des Chemins de la Philosophie, vous pouvez tout réécouter en ligne ou bien podcaster, télécharger ces émissions afin de les écouter où vous voulez et quand vous voulez. On vous donne également rendez-vous sur les réseaux Facebook, Twitter et Instagram où nous attendons vos remarques et commentaires. Allez, on se retrouve lundi à 10h. Mais d'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.